la psychologie, ça on verra du reste. C'est plus avec la philosophie du vivant du reste qu'on est en parallèle avec la psychologie. Mais au fond, c'est d'une part la philosophie du vivant, d'autre part l'éthique, qui peut donner des réponses aux psychologues intelligents qui posent des questions parce qu'ils comprennent que sa psychologie ne dit pas tout. Nous verrons ça progressivement. Mais c'est vrai que l'éthique est un dépassement par rapport, ou un approfondissement par rapport à la psychologie, comme la philosophie du vivant. Alors, je vais vous donner un petit schème pour que vous puissiez saisir. C'est bon d'avoir des petits schèmes simplement pour les brûler ensuite, n'est-ce pas ? Alors, ceux qui connaissent déjà cela, c'est simplement se rappeler un peu que représentent les différents aspects de la philosophie. Je crois que c'est nécessaire, au moins, de comprendre qu'il y a deux grandes orientations dans la philosophie. Il y a une orientation pratique et une orientation spéculative. C'est une distinction qu'Aristote a faite face à Platon, et une distinction que les marxistes ne font plus. Donc, c'est une distinction que nous devons faire. Vous voyez bien. Et que nous devons essayer de comprendre, pas seulement devoir la faire, mais la comprendre. Pour Platon, la connaissance humaine, la connaissance philosophique, c'est la connaissance qui atteint la vie. C'est-à-dire les formes en soi. Et puis, ça c'est la connaissance du nous. C'est-à-dire la connaissance de l'intelligence. C'est ici l'invisible des formes en soi. Là, ce qu'on s'est dit. Et la connaissance sensible, saisit les apparences. Il y a une opposition entre les deux. Et la connaissance des formes en soi va se développer dans une dialectique. Pas de division chez Platon entre une connaissance pratique et une connaissance spéculative. Toute connaissance pour lui est spéculative, elle conduit à la contemplation. Elle conduit à la contemplation, à la théoria. C'est pour ça que l'éthique chez Platon est très particulière, vous voyez. Au fond, l'éthique, c'est de nous ordonner à la contemplation. On essaie d'être vertueux pour se séparer de tout le domaine du corps, qui est le domaine sensible, qui est le domaine des apparences. On va s'en séparer le plus possible pour entrer dans le domaine de la contemplation. Le domaine des vertus, parce que Platon parle des vertus, il parle de vertus de justice, c'est parce que l'homme est engagé dans une communauté qu'il faut parler de la justice. Il est engagé dans une communauté. Étant engagé dans une communauté, il fait partie d'une communauté, il doit donc être attentif à rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais la vertu, à quel niveau est-elle ? Vous voyez, c'est là on voit très bien que Platon lui-même a été saisi par son propre jeu. Parce qu'au fond, il est parti de cet a priori, le monde visible et le monde invisible. Et ceci, ça relève de parmi nous. Le monde visible et le monde invisible. Et le philosophe regarde le monde invisible. Et les gens habituels regardent le monde visible. Donc c'est la grosse division qui vient de Parménide et qui passe par Platon et qui est reprise de façon très systématique. Et quand Platon se mit à regarder la communauté dans la République, dans son dialogue sur la République, il regarde l'homme engagé dans une communauté. L'homme engagé dans une communauté, est-ce que c'est la visite ? Vous êtes coincé. Parce que c'est bien évident que vous êtes dans une communauté, c'est visible. Quand vous vous mettez à rêver, vous êtes en dehors de la communauté. Personne ne vous atteint, vous êtes en dehors. Tandis qu'au contraire, si vous êtes parti d'une communauté, vous êtes parti d'une communauté. Et parti d'une communauté, vous devez respecter les autres parties de la communauté. Alors, est-ce que c'est du visible ou l'invisible? Voilà, il ne dit plus rien. Il dit simplement que la justice est au niveau de la communauté. On sait que pour Platon, la justice, c'est au niveau de la communauté, mais la communauté doit nous organiser dans la contemplation. On doit sortir la communauté, mais pas notre fin. Ce qui est très juste. Notre bonheur n'est pas la communauté. Notre bonheur est au-delà de la communauté. Toujours, ça reste vrai, c'est une communauté. Celui qui cherche son bonheur dans une communauté ne le trouve jamais. Jamais. La communauté est un lieu merveilleux d'exercice pour acquérir les vertus. C'est-à-dire que si vous étiez seul dans une petite hutte, sans avoir passé avant par la vie commune, vous vous croiriez absolument vertueux et parfait. Tous les autres ne le sont pas. Dès que vous êtes en communauté, vous vous apercevez de vos imperfections. C'est pour ça que c'est toujours une épreuve, la communauté. C'est toujours une épreuve, on s'aperçoit de ses imperfections. Quand on ne vivait pas en communauté, on croyait qu'on était parfait. Avant d'entrer, on se croyait parfait. Puis au bout de 6 mois qu'on est là, et même avant, au bout de 2 mois ou 1 mois qu'on est dedans, on s'aperçoit qu'on est imparfait. On dit, je savais pas que c'était... Mais oui, vous ne saviez pas que vous étiez imparfait. Vous ne saviez pas que vous aviez des limites. Vous pensiez que vous étiez parfait, parce qu'on était beaucoup plus parfait avant d'entrer. On se croyait beaucoup plus parfait avant d'entrer. La communauté, c'est toujours une épreuve. Une épreuve qui exige de nous des vertus. Platon reconnaît qu'il faut des vertus pour la communauté. Et donc, l'éthique pour lui est au niveau des vertus, au niveau de la communauté. Mais dès que je sors de la communauté, je suis dans la contemplation. Alors là, au-delà. C'est pour ça que l'éthique de Platon, vous voyez, parce que la coupe entre la connaissance pratique et la connaissance spéculative n'est pas bien faite, on est uniquement en face d'une pensée dialectique qui conduit à la contemplation, au fond, il n'y a pas de distinction entre la connaissance pratique et la connaissance spéculative chez Platon. C'est très très clair. Pourquoi? Parce que pour lui, la connaissance véritable, c'est de connaître les formes en soi. Et pour Platon, il faut aller un peu plus loin, c'est que avant d'être dans votre corps, avant d'être dans une communauté, vous étiez dans le ciel avec les bienheureux. Vous n'avez qu'à vous rappeler, vous étiez dans le ciel avec les bienheureux et vous aviez une vie contemplative pure. On vous a uni à un corps parce que vous n'avez pas été sérieux. Et alors c'est une punition. Avoir un corps, c'est une punition. C'est pour ça que le corps est considéré par Platon comme le tombeau de l'âme. Vite, la philosophie consiste à se séparer du corps pour retrouver l'état primitif. Vous voyez, c'est nostalgie du paradis terrestre. Hein, c'est très cru, et c'est ça qui est intéressant. Parce que Platon nous montre une nostalgie, à sa manière, une nostalgie du paradis terrestre. L'état premier. J'étais dans cet état-là. Nous, nous disons que c'est pas nous. Nous n'avons pas été dans le paradis terrestre. Hein. Nous n'avons pas été là. Mais notre nature humaine a connu cet état-là. Et donc, il y a en nous une nostalgie du paradis terrestre. Et que c'est très difficile pour nous d'accepter une vie commune, parce que la vie commune est toujours là pour nous rappeler nos limites. Et la vie commune a un but, l'acquisition des vertus. La vie commune en elle-même n'est pas contemplative. Pas du tout. Le contemplatif réclame la solitude. Le contemplatif réclame la solitude. La vie commune, c'est la vie active. La vie active, c'est très bien, parce que ça peut acquérir les vertus. J'en ai besoin, des vertus. Mais comme Platon ne distingue pas très nettement connaissance pratique et connaissance spéculative, il est obligé de faire une coupe intermédiaire, vous voyez, parce qu'il est bien évident que dans la communauté, c'est mon corps qui est présent dans la communauté. C'est le visible, je vois une communauté, je la vois. Le côté invisible, contemplation, là, vous voyez, on a une cote mal taillée. Et Aristote vient après, il va réfléchir énormément sur le problème de l'éthique. Ça, on peut dire qu'Aristote est vraiment le premier qui nous donne une éthique personnelle, tandis que Platon ne fait qu'une éthique communautaire. Il nous donne une éthique personnelle. Il essaie de comprendre quel est le bonheur de l'homme. Le bonheur de l'homme est au-delà de la communauté. Quand vous faites en maison, votre bonheur est plus immédiat que quand vous faites un exercice de communauté. C'est très vrai. Et ça, on peut expérimenter ça. Alors évidemment, on peut trouver que la solitude de l'oraison, c'est lourd. Vous savez ce que disait Aristote, cette chose très très belle. Le solitaire, où il est comme une bête, il est comme un dieu. Parce que si on n'atteint pas la contemplation dans la solitude, il n'y a rien de plus ennuyeux. Tandis qu'au contraire, dans la vie active, on se sentait. On a au moins quelqu'un qui est à côté de nous. Tandis que la solitude, c'est très dur. Et on voit très très bien comment la vie solitaire, où elle nous conduit à être comme une bête, ou à être comme Dieu. Et c'est pour ça qu'on a quelquefois la vie commune est rude, mais elle est plus facile à porter que la vie solitaire. Mais la vie commune doit être orientée vers la contemplation. Alors, Aristote donc, va nous faire comprendre qu'il y a une connaissance pratique. C'est ici, c'est très important de comprendre ça. Tout ça, c'est la base d'expérience. Hein. On va essayer de comprendre que c'est la base d'expérience. C'est pas un a priori. Tandis que pour Platon, c'était un a priori. La séparation du monde visible et invisible. Alors, il a essayé de faire comprendre en disant que nous avions une expérience de nous défendre en soi. Nous avions une expérience de notre vie antérieure. Et ça, Platon seul là. Ah, vous avez l'expérience de votre vie antérieure. Une fois à Paris, comme ça, il y avait un chauffeur de taxi qui m'a dit que dans sa vie antérieure, on a un peu parlé de philosophie, alors il m'a dit que dans sa vie antérieure, il avait même joué à Athènes. Alors je lui dis, ah bon, on va parler grec si vous voulez. Ah, j'ai complètement oublié. Il est persuadé que dans sa vie antérieure, il avait joué sur les... Mais quand on a précisé un peu ce que c'est le fait, ça, il avait oublié. Ça. Mais il se rappelait qu'il jouait sur les scènes. Ça. Et au fond, on a une espèce de rêve comme ça. Hein. C'est un rêve. Quand on s'ennuie d'être chauffeur de taxi, on aime mieux jouer sur l'agrément. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant de jouer sur le théâtre. Alors, la connaissance pratique et la connaissance spéculative. Je vous donne ça parce que c'est quelque chose de capital sur lequel nous reviendrons, parce que c'est très important de comprendre tout de suite que c'est à partir de cette division de la connaissance pratique et de la connaissance spéculative qu'on va avoir une diversité dans la philosophie. Autrement dit, notre philosophie, parce qu'elle respecte la réalité, n'est pas une pensée dialectique. La pensée dialectique est toujours uniforme. Elle est uniforme dans un mouvement. Mais elle est toujours immanente. Toujours. Elle est uniforme. Elle se développe par elle-même, de l'intérieur. C'est ça le propre de la pensée dialectique. Tandis qu'au contraire, une philosophie réaliste est une philosophie qui, partant de l'expérience, de notre expérience, fait que nous voyons qu'il y a en nous une très grande diversité. Et cette très grande diversité, c'est que nous pouvons avoir une connaissance pratique affective. La connaissance affective, c'est la connaissance que nous avons de la vie, c'est-à-dire de l'homme que nous considérons comme proche de nous et comme notre ami. Nous avons une connaissance affective. Et à côté de la connaissance affective, nous avons une connaissance toute différente, une connaissance capable de réaliser la réalisation, la connaissance du travail. Ça, c'est difficile à comprendre. Vous voyez, l'expérience que vous faites sur un chantier. Vous travaillez et vous travaillez avec quelqu'un d'autre. Si vous ne vous entendez pas avec lui, vous ne pédalez pas du même pas. Vous direz, si je pouvais travailler ça, ça irait beaucoup plus vite. Si au contraire, vous travaillez avec quelqu'un avec qui vous entendez très bien, vous dites, ah, c'est merveilleux. On fait double travail. C'est vrai, normalement, si on coopère. Donc il y a deux choses tout à fait différentes. Le lien affectif avec l'autre, et le lien de transformation de l'autre, c'est-à-dire de la matière, dans le travail. Vous avez là deux connaissances tout à fait différentes et qui sont toutes les deux pratiques. Pourquoi ? Parce qu'elles sont ordonnées à une action. C'est deux connaissances pratiques. La connaissance de réalisation du travail qui transforme la matière aboutit à une œuvre. Tandis que la connaissance affective aboutit tout simplement dans une connaissance de l'autre qui permet de coopérer avec lui. Grâce à cette affection, grâce à cette connaturalité que j'ai, je peux collaborer. Et puis, il y a une connaissance spéculative. La connaissance spéculative, c'est la connaissance qui recherche la vérité. Pour elle-même. Donc voyez que du côté, la connaissance spéculative recherche la vérité pour elle-même. C'est la connaissance dite scientifique habituellement. Toutes nos connaissances scientifiques sont spéculatives. Elles recherchent la vérité, elles recherchent des lois. Alors la vérité est plus ou moins atteinte, mais elles recherchent des lois. Les connaissances mathématiques sont spéculatives. Aristote connaissait les mathématiques. Vous savez bien, il y a cette phrase qu'il ne faut jamais oublier, qu'Aristote dit, les mathématiques sont nées de l'Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Alors, c'est comme ça que les mathématiques sont nées. Et c'est vrai, les mathématiques sont nées de l'Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. La connaissance spéculative réclame des loisirs. Quand vous n'avez pas de loisirs, vous pouvez travailler, vous pouvez coopérer avec un autre, mais vous n'avez pas le temps d'une connaissance spéculative. Ça, c'est très vrai. Quand les temps deviennent plus durs, on n'a plus le temps de spéculer. Alors, faisons attention au mot spéculer. Hein. Le mot spéculation prend des significations très différentes. Hein. La connaissance spéculative, on devrait traduire la connaissance contemplative. C'est juste l'inverse de la spéculation. La connaissance contemplative, c'est la connaissance théorétique. Alors on a traduit spéculative, c'est-à-dire celle qui regarde. C'est la connaissance spéculative. Donc il y a deux aspects que vous pouvez vous-même réfléchir et découvrir dans votre propre vie. Une connaissance dite pratique, qui est ou ordonnée à l'action ou à la coopération, ou une connaissance pratique qui est ordonnée à l'œuvre, ou une connaissance dite spéculative. Ça, c'est une distinction. Je ne veux pas insister plus maintenant, mais vous y reviendrez constamment là-dessus. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. À partir tout simplement de votre réflexion sur votre connaissance, vous apercevez qu'en effet, dans l'homme, il y a une possibilité du travail, il y a une possibilité d'aimer, il y a une possibilité de réfléchir pour vous-même. Parce que quand vous travaillez, vous faites une œuvre. Pas pour vous, pour l'œuvre. C'est vous qui allez user de l'œuvre, mais c'est vous travaillez pour réaliser une œuvre. C'est bien évident. Et l'œuvre est une médiation entre votre connaissance et vous. Tandis que quand vous réfléchissez, je vais réfléchir maintenant un tout petit peu à ce problème, hein. Je vais essayer de comprendre un tout petit peu ce qui m'a été dit. Je réfléchis, connaissance spéculative. Vous réfléchissez pour connaître. Vous réfléchissez pour atteindre la vérité. Tandis que dans la connaissance pratique, vous réalisez un travail ou vous aimez quelqu'un. Donc, je crois qu'on peut assez facilement discerner dans sa vie ces trois moments. Oui. Si, même quand vous écoutez un cours, il y a trois aspects qui peuvent se conjuguer. Si le cours est un cours de philosophie, normalement, c'est ordonné à la recherche de la vérité. Ce cours me fait travailler, je gratte du papier. C'est pas en grattant du papier que vous découvrez la vérité. Mais vous grattez du papier pour avoir des notes, pour fixer votre attention. C'est vrai, ça aide à fixer l'attention. Ça, la plupart du temps. On a de la peine à maintenir notre attention longtemps. On gratte du papier pour savoir ce qui a été dit à peu près. Ça me permettra aide-mémoire. Alors je gratte du papier. C'est le travail, ça. Un cours est fatigant quand on doit gratter tout le temps. Tandis que si on dit uniquement, hein, je reçois, moi, ça semble magnifique. Et c'est vrai, normalement, un cours de philosophie, ça doit conduire à la contemplation. Ça ne doit pas conduire au papier qu'on a gratté, on a fait une calligraphie extraordinaire. C'est pas le but du cours. C'est pas le but du cours, c'est de me faire gratter. Non, le but du cours, c'est de me faire comprendre. C'est que vous devenez intelligent. Vous voyez bien les deux. Alors, on ne peut pas aller tout de suite au début. Parce qu'au début, on a de la peine. Alors on gratte parce que cette chose, si je ne gratte pas tout de suite, ça ne viendra pas, je ne retiendrai pas. C'est le travail. Et puis vous êtes à côté de quelqu'un que vous aimez bien. Ou vous êtes à côté du professeur que vous aimez bien, ou au contraire, vous n'aimez pas. C'est très différent. Les professeurs qu'on aime bien, les professeurs qu'on n'aime pas. Les professeurs qu'on aime bien, on les comprend par avance. Les professeurs qu'on n'aime pas, par avance, on ne les comprend pas. C'est le gosse de mathématiques, premier cours de mathématiques. Le gosse revient à sa mère et dit, « Maman, ce professeur de mathématiques, c'est un imbécile. » Sa mère dit, « Pourquoi ?» Oui, il dit, « 1 et 1, 2. 1 et 1, 1. » C'est sa mère qui m'a raconté ça. Quand le gosse prend le bain, la mère lui envoie une balle, seconde balle. Tu vois, une balle, deux balles. Ah, mais maman, il n'a pas dit ça, le professeur. S'il avait dit une balle et deux balles, j'aurais dit deux balles. Mais il a dit un et un. Ça ne fait pas deux. C'est un. Alors sa mère s'est aperçue, elle est allée voir le professeur de mathématiques, elle s'est aperçue. Le professeur de mathématiques dit, votre fils, c'est un imbécile. Alors la mère a très bien compris qu'il y avait une opposition affective qui s'était réalisée entre le professeur de mathématiques et son fils, et par le fait même, tout ce que le professeur de mathématiques disait était bête. Et alors que quand on aime quelqu'un, on comprend. Vous voyez, les trois aspects, la connaissance affective, le travail et la recherche de la vérité. Quand vous grattez, quand vous suivez un cours et que vous grattez, vous prenez des notes, les trois éléments jouent. Je me souviens, c'était quelqu'un, je connaissais bien, et mon mari était professeur de philosophie. Alors, les cours de son mari, c'était sublime. Alors, j'ai demandé si elle avait compris quelque chose. Elle ne pouvait rien dire, c'était tellement sublime qu'elle pouvait tout dire. C'était sublime, c'était merveilleux, parce qu'il y avait le côté affectif. Et là, elle disait, et si vous entendiez sa voix? Alors, c'était le comble. La voix, le côté affectif. Alors, c'est pour discerner les trois aspects quand on suit un cours. Si vous l'analysez, évidemment, vous pouvez très bien ne pas analyser. Mais si vous analysez, vous voyez la finalité du cours, recherche de la vérité, et réunir en vous une connaissance spéculative. Il y a une connaissance affective, puisque ça se fait dans une communauté. Il y a une connaissance affective, il y a une connaissance de travail, réalisatrice, les trois. Mais il y a un ordre entre les trois. La finalité du cours de philosophie, est-ce que c'est d'entendre la voix cassée du professeur? Non, c'est de chercher la vérité. Alors, peu importe la voix, c'est de chercher la vérité. L'aspect affectif est second. Et les notes pour la vérité. Tandis que celui qui dit, non, moi, ça m'est égal la vérité, c'est passer des examens. Alors je vais gratter, gratter, gratter pour tout apprendre par cœur. Alors à ce moment-là, vous voyez, la finalité de la vérité disparaît. Et alors c'est le travail. C'est le bûcheur. Celui qui bûche pour ça uniquement, ça lui est égal. Hein. La recherche de la vérité, ça n'a rien à voir du tout. Il travaille. Le travail peut très bien étouffer une recherche de vérité. Et puis le côté affectif, pour d'autres, on dirait, oh, c'est la seule manière de retrouver un tel, je le retrouve au cours. La finalité, c'est de se retrouver. Donc c'est le côté affectif qui prime. Vous voyez, les trois aspects sont présents dans presque toutes nos activités. Spécialement pour un cours, parce que là, la finalité, la vérité. Parce que dans toutes nos activités, la vérité n'est pas toujours présente. Mais c'est important de distinguer en nous ces trois orientations de notre connaissance. Le travail, l'œuvre, le côté affectif, et le côté spéculatif. Éveiller le côté spéculatif. Découvrir ce côté spéculatif. Alors, c'est à partir de là qu'on va donc distinguer une philosophie pratique. Et dans la philosophie pratique, il y a l'éthique. Et dans la philosophie pratique, il y a la philosophie de l'art. Et dans la philosophie spéculative, il y a la philosophie première. Vous commencez à comprendre les diverses parties de la philosophie que vous allez subir. Il y aura de la philosophie pratique, il y aura de la philosophie spéculative. Oui. Alors parmi vous, parmi les jeunes, il y en a qui sont plus spéculatifs, donc qui sont plus pratiques. Il faut découvrir sa forme d'intelligence. Où on a une forme d'intelligence affective, où on a une forme d'intelligence pratique, au point de vue du travail, où on a une forme d'intelligence spéculative. On peut avoir les trois, c'est pas gênant, heureusement. Et on le sait très bien qu'on peut très bien développer les trois. Mais ordinairement, on en a un aspect qui est plus développé que l'autre. Alors, la connaissance de la philosophie du vivant, c'est du côté spéculatif. Tandis que éthique et philosophie de l'art, ça, c'est le point de vue pratique. Bon, ceci, c'est pour vous montrer que dès qu'on entre en éthique, on entre dans une philosophie pratique. Pourquoi ? Parce que c'est une philosophie qui cherche non pas la vérité, mais l'opération humaine, qui regarde l'opération humaine et qui va m'aider à pouvoir réaliser plus parfaitement l'opération humaine. Donc, bonheur. C'est une philosophie qui regarde le bonheur. L'éthique est faite pour que vous puissiez être plus lucide dans vos choix humains. Et l'éthique naît à partir de la considération du bonheur de l'homme. Le bonheur de l'homme, c'est pas de réaliser une œuvre. L'œuvre peut m'aider. Mais c'est pas ça qui donne le bonheur de l'homme. Le bonheur de l'homme, il doit le trouver à l'intérieur de lui. Il doit le trouver dans la capacité qu'il a d'aimer. Plus il est capable d'aimer, plus il se développe. Plus il recherche la vérité, plus il se développe. Oui, c'est pas une œuvre. L'œuvre glorifie l'homme, mais ne lui donne pas le bonheur. Alors évidemment, certains peuvent considérer que le bonheur, c'est d'être au pinacle, d'être glorifié. On parle de nous dans les journaux, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On n'a jamais parlé tant de moi dans le journal, c'est extraordinaire. Ben oui, est-ce que ça vous donne un peu plus de bonheur ? C'est la gloire. Les gens parlent de vous, en bien ou en mal. C'est pas d'importance. Ils parlent de vous, c'est la gloire. La gloire provient de l'œuvre. Dès que vous faites quelque chose, immédiatement, la gloire. Tandis qu'au contraire, le bonheur est intérieur. La philosophie pratique, éthique, est polarisée sur ce que c'est que le bonheur de l'homme. Et elle étudie les diverses opérations de l'homme en vue du bonheur. Voilà, pour situer cette philosophie éthique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de se rappeler. Le père de la philosophie éthique, c'est Aristote. C'est le premier Et donc, il y a une œuvre d'Aristote qu'il faut essayer de lire, c'est l'éthique, à Nicomaque. C'est lisible, c'est l'œuvre sans doute la plus lisible d'Aristote. Et ça, c'est don. Les Américains, quand ils ont précisé qu'il y avait pour tout homme cultivé 100 livres à lire, ils ont mis l'éthique à Nicomaque. Donc, indépendamment de la philosophie, pour être à l'ordre du jour, lisez l'éthique à Nicomaque. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes un homme cultivé, vous aurez lu les 100 livres. Eh bien, l'éthique à Nicomaque fait partie de ces livres-là. Vous ne pouvez pas être un homme cultivé sans avoir lu l'éthique à Nicomaque. Donc, il faut lire l'éthique à Nicomaque. Ici, pour nous, c'est le livre de chevet. On vous montrera que c'est quelque chose de... On vous donnera des textes à lire, et puis vous essaierez de comprendre ce que c'est que l'éthique à Nicomaque. Parce que c'est un très beau livre. C'est difficile, mais c'est un très beau livre. Et Aristote commence par le bonheur. C'est le bonheur, tout de suite qu'on regarde. Puis une fois que le bonheur, on analyse le bonheur. Le bonheur, il est quelque chose que je suis capable de réaliser pour moi-même. Et Aristote, tout de suite, contrairement à certaines traditions religieuses, qui disait que le bonheur était quelque chose qui vous était donné gratuitement par Dieu, par les dieux. Aristote dit non. Le bonheur, ça dépend de moi. Je peux faire mon bonheur. Là, c'est une chose très étonnante. Face à la moira grecque, face au problème de la destinée, on est né sur une bonne planète ou une mauvaise planète, que voulez-vous, vous êtes né sous un mauvais moment, une mauvaise heure, un mauvais jour. Hein, et ça vous poursuivra toute votre vie. C'est pas étonnant que vous serez triste toute votre vie. C'est pour ça que vous serez désespéré, parce que vous êtes né. Prenez conscience de ce que vous êtes au-delà de la conduite des astres. Le bonheur est volontaire. C'est une œuvre volontaire au-dedans de moi. Ça, c'est une chose très belle d'avoir découvert ça. Une chose très grande. Oui, parce que ça nous libère d'une tyrannie de superstition. Ce n'est pas une tyrannie religieuse, en réalité, c'est une superstition. Et ça existait très fort dans les théâtres grecs. Il faudrait bien comprendre les théâtres grecs pour comprendre justement toute la différence qu'il y a dans cette perspective d'Aristote qui dit le bonheur, ça dépend de moi. Pas totalement, c'est vrai, mais ça dépend de moi principalement. Je peux faire que progressivement je suis un être heureux. Donc ça commence par le bonheur, puis l'activité humaine, progressivement, et puis ensuite la vertu. Bon. La philosophie d'Aristote, l'éthique d'Aristote, a été assumée par saint Thomas. Ça c'est sûr. C'est une des choses que saint Thomas a pris le plus à Aristote. Pour certains, c'est même là où la dépendance entre saint Thomas et Aristote est la plus visible. C'est dans la prima secundae, donc de la somme théologique, c'est dans la prima secundae. Vous notez ça comme ça. Dans prima secundae, c'est tout ça. Prima secundae. Parce qu'on distingue la seconde partie de la somme, prima secundae, et la seconda secundae. Prima secundae, ça veut dire la première partie de la seconde partie. Et la seconda secundae, ça veut dire la seconde partie de la seconde partie. C'est deux fois, c'est deux bis. Et soit dans le cas, c'est un sur deux. Ici, c'est deux sur deux. Alors, vous avez compris, c'est dans la prima secundae, dans la somme théologique. Dans la somme théologique de saint Thomas, que saint Thomas va étudier l'acte humain et la béatitude. Il va reprendre toute l'éthique d'Aristote. Donc vous avez là deux lieux très très importants à étudier. L'éthique d'Aristote et dans la somme théologique de saint Thomas. Les deux sont en parallèle. Aristote fait son éthique face à Platon. Pour nous, le problème éthique, je ne vais pas faire ici un cours sur Aristote, je fais un cours d'éthique. Alors je dis, Aristote commence l'éthique par le bonheur. Est-ce que je peux, moi, commencer l'éthique par le bonheur? Alors, je me mets en situation éthique. Hein, vous allez comprendre. Vous savez bien que quand vous saurez, vous savez bien que Kant a eu une espèce d'intuition très particulière. C'est de comprendre que l'activité morale commence par l'impératif catégorique. Mais il faut arriver petit à petit avec le cours de l'éthique, voir les diverses positions philosophiques qui rendent éthique. Nous en avons cité une, Platon, au début, Platon. Nous avons vu que Platon, son éthique, elle est contemplative. Et Platon ne peut pas expliquer l'actu. Nous avons vu l'éthique d'Aristote. Si toi, Aristote, on verrait l'éthique épicurienne, Épicure, c'est très simple, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, la jouissance, le plaisir. Le bonheur égale le plaisir. Et puis, il y a l'éthique stoïcienne, ça en fait déjà quatre. Je crois pas. C'est beau chaud. L'éthique stoïcienne, c'est l'éthique volontariste. Il faut dominer à tout prix. C'est la volonté qui domine sur tout. Vous avez donc là quatre formes d'éthique très très particulières. Au moins les noter maintenant, et puis petit à petit vous comprendrez et vous les situerez. Donc, l'éthique de Platon, on pourrait commencer l'éthique de Socrate, mettez ça comme ça, et puis nous allons continuer là. L'éthique de Socrate, Socrate c'est le grand-père, donc c'est celui qu'on aime le plus, c'est le grand-père, hein, Socrate. C'est lui qui a eu à Delphes, vous savez bien, la révélation, connais-toi toi-même. Et au fond, Socrate cherche à étudier ce que c'est que les vertus, pour connaître l'art. Ensuite, Platon a une morale contemplative. Ensuite, Aristote, la morale du bonheur. C'est pas la morale de la vertu, c'est la morale du bonheur. Et d'un bonheur que l'homme est capable d'être source. Ensuite, après Aristote, vous avez Épicure, la morale épicurienne, c'est la morale du plaisir. Puis vous avez, après Aristote aussi, les stoïciens, c'est la morale de la domination de soi, du volontariat. Volontarisme, c'est l'extrême de l'éthique. Et puis la morale d'Aristote continue, la morale de Platon continue. Donc vous avez déjà, en philosophie directe, vous avez 2, 3, 4, 5 types de morale. C'est déjà très extraordinaire. 5 manières de considérer le point de vue du problème moral. C'est ce qui vous montre que c'est pas si commode que ça. C'est pas si commode que ça. Parce que ce ne sont pas des imbéciles quand même. Si c'était des imbéciles, on n'en parlerait plus. Mais ce ne sont pas des imbéciles. Ils ont touché quelque chose de juste. Alors, si Aristote dit la vérité, du moins si Aristote est le plus proche de la vérité, c'est celui-là que saint Thomas saisit. L'option de saint Thomas est... Saint Thomas a pris Aristote. Les pères de l'Église ont pris, les premiers pères de l'Église, pas tous les pères de l'Église, ont pris les stoïciens. La morale stoïcienne est très présente dans les pères de l'Église. Et Platon. Et saint Thomas, lui, au-delà des stoïciens, au-delà de Platon et du néoplatonisme, veut revenir à Aristote. Il revient à Aristote. Et il fait une morale du bonheur. Ça, c'est quelque chose de très important et très impressionnant de voir qu'il prend une morale du bonheur. Ce n'est pas une morale du devoir. Mais après saint Thomas, très vite, il y a eu une baisse. Vous n'avez qu'à entendre le livre sur le Moyen-Âge, pour vous apercevoir que le XIVe siècle, n'est-ce pas, comme on ne cesse de vous le dire, est un siècle terrible de destruction, on ne voit plus du tout. C'est vrai, au point de vue de la pensée, ça a été comme ça. Et alors, on a abouti, sans donner tous les intermédiaires, on a abouti à la morale de Kant. Alors ça, je crois qu'il faut mettre quelque chose de particulier. Saint-Amand n'a pas une nouvelle théorie de la morale. Il prend Aristote. Hein? Je suis bien obligé de reconnaître ça. Saint-Amand n'a pas inventé une nouvelle morale. Kant, lui, c'est l'impératif catégorique. Ça, c'est une chose qu'on connaît. Tu dois faire ça. Il y a des gens qui considèrent que la vocation, c'est l'impératif catégorique. Dieu met le couteau sous la gorge. Tu fais pas ça, tu seras malheureux toute ta vie. Alors, j'entre pour ne pas être malheureux toute ma vie, j'y comprends rien. L'impératif catégorique, tu vois. Là, on vous coupe la tête. Il y a des gens qui considèrent la vocation d'une manière kantienne. Alors, l'impératif catégorique, est-ce qu'on entre par amour ou on entre sous le point de vue de l'impératif catégorique? Le discernement de la vocation. Vous voyez tout de suite, hein, il y a des critères du point de vue moral, ça ne peut pas être autrement. Donc, Kant, puis ensuite, hein, je vais prendre simplement, après Kant, je prendrai Nietzsche. Parce que c'est celui qui détruit Kant. La morale nietzschéenne est une morale de la domination, de la puissance, volonté de puissance. Volonté de puissance. On retrouverait du stoïcisme, c'est bien évident, mais ce n'est pas tout à fait du stoïcisme, parce que c'est une volonté de puissance d'une surhomme. En réalité, cette volonté de puissance est très liée à une activité de domination. On veut vraiment dominer les autres et dominer soi-même. Donc il y a une domination, une volonté de puissance. Nous sommes ici, vous voyez bien, après Nietzsche. Alors on pourrait dire également morale de Sartre, la morale de la situation. Pour Sartre, c'est la morale de la situation. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a plus de morale. On se débrouille. La morale au service militaire, hein, c'est la morale de la situation. C'est ça. Ah, tu es dangereux. Oh, débrouille-toi. Vous voyez, morale de situation, de temps en temps, c'est comme ça. Il n'y a plus du tout aucune espèce d'obligation morale. On se débrouille. Morale de la situation. C'est tout simplement, ce n'est plus de la prudence, ce n'est plus de la morale. Au fond, on tombe dans l'habilité. C'est l'habilité. C'est celui qui se débrouille. Alors on n'est plus en face de moi, c'est une confusion complète. Et puis, il y aurait encore, neuvièmement, qui est très proche de celle-là, qui serait. Vous savez, ce petit livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, Dénard, qui a dit « Morale sans péché ». C'est une morale qui est à base de freudisme. Donc, psychanalytique. Pour essayer de supprimer la faute et montrer que la morale est sans péché, sans faute. Donc, supprimer la faute. Et en fond, ça revient à la morale de situation. Ça revient à une situation où on réduit la morale à l'aspect psychologique. C'est la psychologie qui va tout expliquer. Et donc, très vite, une espèce d'adaptation à la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes équilibré psychologiquement si vous êtes parfaitement, parfaitement adapté. Ça, c'est une habileté d'être adapté. Alors, pratiquement, il n'y a plus de morale. Enfin, on pourrait dire qu'avec la partie Sartre et la psychanalyse, au fond, il y a une destruction de la morale. Une destruction de la morale. Chez Freud, il n'y a plus de morale. La morale n'existe plus. Alors c'est impressionnant de voir Nietzsche supprime la morale kantienne. Mais Nietzsche ne supprime pas la morale. Il ne faudrait pas dire que Nietzsche est la suppression de la morale, ce serait pas vrai. Mais il ne l'a jamais donnée. Il cherche après. Parce que pour Nietzsche, ce qui est premier, c'est la créativité. Vous voyez, le facere, le prima du facere, le facere. Le facere artistique va passer devant le monument. Et c'est celui-là qui va commander tout. Et alors, à partir de là, on sent très bien que la morale reçoit tellement gros coup qu'elle disparaît. On pourrait dire, il y a toujours, on pourrait trouver des livres de morale encore actuellement, c'est bien évident. Mais il y a eu des coups très durs par le point de vue de Freud, par le point de vue de Sartre, par le point de vue de Nietzsche. On pourrait dire que là, il y a les trois grandes attaques à la morale. Trois grandes attaques à la morale. Pas pour Freud, il met avant, pour montrer qu'il n'y a pas de responsabilité, c'est le conditionnement de l'individu qui prend tout. Vous êtes conditionné de telle manière que vous n'êtes pas responsable. Donc c'est la morale de situation. Vous êtes dans telle situation, vous n'êtes pas responsable. J'étais dans cette situation. C'est le pauvre type qui dit, je me souviens, un type qui sortait de prison et qui m'a dit qu'il avait... Il était en prison parce qu'il avait, avait volé du pain. Il a eu cette parole sublime au juge quand il a été condamné. Monsieur le juge, vous auriez été dans ma situation, vous auriez fait comme moi. C'est lui qui m'a dit ça. J'ai aimé, c'est morale de situation. Vous auriez été dans ma situation, vous auriez fait comme moi. Et au fond, on est quelquefois acculé dans telle situation qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'y a plus de morale. Alors on assiste aujourd'hui, et ça il faut bien comprendre, on assiste à une espèce de mort de la mort. Je crois qu'on peut le dire, une mort de la morale. Au point de vue philosophique. La philosophie d'aujourd'hui, le structuralisme est plus une mort, ne parle plus de la morale, il n'y a plus. Pourquoi y a-t-il cette mort de la morale? C'est parce que la finalité. Bon, ceci, c'est pour un petit topic pour vous montrer qu'on est dans une situation.